Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast Finis ton assiette. Je suis Léa, diététicienne et épicurienne, et je souhaite vous aider à avoir une alimentation plus saine et puis surtout plus sereine. Ensemble, je vous propose de démêler le vrai du faux sur la nutrition, je vous propose de démonter des clichés et de vous donner des petites pistes pour mieux manger. Je vous partagerai aussi un petit peu mon aventure entrepreneuriale depuis la création de mon cabinet de diététique que j'ai ouvert en 2020. Pour être sûre de ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Finis ton assiette, le podcast. J'espère que vous allez bien et que ce changement de saison n'est pas trop difficile à gérer pour vous. C'est justement le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est-à-dire les saisons dans l'alimentation. Alors, notre année civile, nous, elle est basée sur le calendrier grégorien qui est découpé en quatre saisons. Donc le printemps, l'été, l'automne et l'hiver qui durent environ 3 mois chacune. Et qui sont caractérisées par des gros changements dans la nature à tous les niveaux, que ça soit pour la vie animale, la vie végétale, voilà. Donc évidemment, le corps humain n'y fait pas exception, et donc notre mode de vie est rythmé par les saisons. Par exemple, on se rend compte que on est plus fatigué en hiver, qu'on a plus d'énergie en été. C'est essentiellement lié à la luminosité. Puis voilà, on va voir un petit peu les adaptations que le corps doit subir. Donc, on va commencer par parler des impacts d'une alimentation de saison sur le corps humain. Ensuite, on va parler des autres impacts, donc des impacts sur la nature en général. Je vous dirai un petit peu quels sont les produits qui ont une saisonnalité. Et je vous donnerai des petites astuces simples pour essayer de consommer mieux, notamment au niveau des achats. Alors, dans un premier temps, on va parler donc des impacts sur le corps. Alors, il faut savoir, voilà, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, le corps doit s'adapter à une luminosité différente. C'est le paramètre essentiel, le paramètre en tout cas le plus marquant des changements de saison sur notre corps. Il y a aussi les changements de température, évidemment. Donc le corps, voilà, il doit s'adapter à tout ça et ça lui coûte beaucoup d'énergie. D'ailleurs, bien souvent, au changement de saison, on est hyper fatigué, mais parce que le fait de s'adapter à ça, même si c'est complètement naturel, ça demande beaucoup d'énergie au corps. Donc là, récemment, on a changé d'heure, donc tout ça, voilà, ça a un impact sur notre corps, c'est-à-dire que le rythme change. Autant il change de quelques minutes au fur et à mesure de l'année, parce que dans un sens ou dans l'autre, parce que les jours raccourcissent de quelques minutes, autant quand c'est une heure de plus ou de moins, c'est un petit peu difficile à gérer pour lui. C'est-à-dire que je prends l'exemple de mon conjoint, par exemple, qui travaille en 2-8. Le matin, quand il travaille de matin, il commence à 6h du matin, donc il doit se lever à 5h. C'est déjà difficile. C'est pas forcément un rythme qui est très naturel pour lui. Et là, changement d'heure, bim, il doit se lever une heure plus tôt. C'est hyper violent pour l'organisme. C'est-à-dire que il a mis déjà du temps à s'adapter à un lever à 5h, qui pour lui est une contrainte, mais là, du coup, d'une semaine sur l'autre, il doit se lever encore une heure plus tôt. Du coup, c'est fatigant et c'est normal. Voilà, donc le corps doit s'adapter à ça. De l'été à l'automne, par exemple, le corps doit s'habituer à des jours qui raccourcissent, à des températures qui baissent, aux infections saisonnières qui recommencent. Voilà, en hiver, là, son principal défi, on va dire, c'est de lutter contre les infections. Et voilà, et donc, du coup, il doit s'adapter à tout ça. Et il y a un fonctionnement naturel qui se met en place. Mais pour l'aider, il y a les consommations, en fait, des produits de saison. C'est-à-dire que, aussi bien pour le corps humain que pour le reste de la nature, il y a des adaptations à faire. Et chaque saison est marquée par des changements, par des événements qui lui sont propres. Le printemps, par exemple, c'est le renouveau, c'est les fleurs qui commencent à pousser après la période où les arbres, les végétaux sont plutôt nus parce que ils ont subi le froid. Donc là, voilà, les températures se radoucissent, les jours se rallongent, on a plus de luminosité. Là, actuellement, moi, je vis dans la région de Bordeaux, je sais pas si c'est le cas partout, mais il fait fait super beau, il fait chaud, on voit vraiment que la nature voilà, recommence un petit peu, s'éveille en fait tranquillement. Et du coup, bah, pour le corps humain, c'est pareil. C'est-à-dire que bah, actuellement, indépendamment des contraintes qu'on vit actuellement, bah, y a beaucoup de gens qui récupèrent un moral un peu plus haut. Voilà. Et tout ça, c'est lié à la luminosité qui s'accentue, voilà, qui dure plus longtemps, etc. Et puis la chaleur qui revient, alors qui risque de repartir à un moment, mais bon, enfin voilà, ces fluctuations là sont gérables par le corps, et elles ont aussi évidemment un impact sur les végétaux, en fait les végétaux qui poussent dans la nature. Les fruits et légumes par exemple, ils ont une saisonnalité, c'est-à-dire que certains fruits et légumes vont bien supporter le froid, d'autres vont avoir besoin de plus de luminosité, de plus de chaleur, etc. Ce qui fait qu'au fur et à mesure de l'année, les végétaux ne vont pas tous pousser en même temps, ça va être échelonné. Et ce qui est génial, c'est que les végétaux de saison permettent au corps d'apporter des nutriments qui correspondent à ses besoins. C'est-à-dire que, par exemple, en hiver, les fruits et légumes de saison, alors par exemple les choux, les courges, etc., ce sont des végétaux qui sont plus denses en fait en énergie. Ils sont moins riches en eau, donc ils apportent plus d'énergie en petite quantité. Les courges, par exemple, elles sont un petit peu plus riches en glucides, donc il va donner de l'énergie. Et ça correspond donc à des besoins du corps d'avoir un peu plus d'énergie pour lutter contre le froid, d'avoir un petit peu plus de sucre, un peu plus de glucides pour lutter contre la fatigue qui est liée à la faible luminosité. Ce sont aussi les fruits, par exemple, les fruits d'hiver, il y a beaucoup les agrumes, les kiwis, etc. Ce sont les fruits qui font partie des plus riches en vitamine C et qui permettent donc au corps de... Donc la vitamine C, elle a un rôle important dans le bon fonctionnement du système immunitaire. Donc ça permet au corps de lutter contre les infections saisonnières qui sont son défi de l'hiver. Puis à l'inverse, les fruits et légumes d'été, ils sont beaucoup plus riches en eau. Les tomates, les courgettes, même les fruits, les melons, les pastèques, etc. Ce sont des fruits et légumes qui sont très très riches en eau et qui permettent en fait au corps une meilleure hydratation et une meilleure compensation des pertes en eau qui seraient dues en particulier à la transpiration. Voilà, donc comme quoi la nature est hyper bien faite, c'est-à-dire que le corps humain s'adapte au changement de saison et à ce qui gravite dans son environnement. Donc effectivement, les fruits et légumes apportent les nutriments qui sont nécessaires au corps en temps voulu. Au printemps, par exemple, les légumes de saison, donc là, ils sont en train d'arriver, il y a les asperges, les artichauts, ce sont des légumes qui vont avoir la capacité de stimuler un petit peu les fonctions rénales, et ça va permettre un petit peu au corps de se détoxifier, de d'éliminer un petit peu le surplus d'énergie qu'on a tendance à faire en hiver. On a tendance quand même à manger des repas qui sont plus riches quand il fait froid, et c'est normal parce que on a besoin de plus d'énergie, on a besoin aussi de se fabriquer un petit peu une couche de graisse qui va permettre au corps de mieux lutter contre le froid, parce que ça lui consomme, ça lui nécessite de l'énergie. Donc voilà, c'est tout à fait physiologique de manger des choses qui sont plus grasses en hiver et des choses qui sont plus légères en été. Et du coup, entre les deux, au printemps en particulier, les fruits et légumes qui sont disponibles sont des fruits et légumes qui vont plutôt avoir une capacité de d'épuration, en fait, qui vont aider le corps à éliminer un petit peu le surplus d'énergie qu'il a pu faire en hiver pour se préparer en fait à l'arrivée de l'été. Il faut savoir que les fruits et légumes qui sont cueillis à maturité, c'est-à-dire en pleine saison, ils ont plus de goût et ils sont plus riches en nutriments, c'est-à-dire que les vitamines, les antioxydants, etc., qui sont indispensables au corps et qui vont l'aider à évoluer dans le bon sens et en bonne santé, sont des éléments en fait qui arrivent, qui se développent en cours de maturation. Donc un fruit ou un légume qui est pas très mûr va avoir beaucoup moins de nutriments, de vitamines, d'antioxydants, etc. que si on attend qu'il arrive à maturité pour le cueillir. En dehors du corps humain, manger de saison a différents impacts, en particulier au niveau de l'environnement, c'est-à-dire que un végétal, enfin des végétaux qui sont des végétaux. Alors là, je parle beaucoup des fruits et légumes, mais on parlera tout à l'heure. Il y a d'autres aliments qui ont une saisonnalité. Donc là, bon, j'axe surtout sur les fruits et légumes, mais vous allez voir que ces impacts-là, ils sont aussi valables pour les autres aliments. Donc impact au niveau de l'environnement par rapport au transport, c'est-à-dire que les fruits et légumes qui sont cultivés pour être toute l'année prêts, admettons les tomates c'est plutôt des fruits d'été qui sont justement très riches en eau par exemple. Voilà, c'est un bon exemple. Alors admettons les tomates, c'est un peu, je parle des tomates parce que c'est quand même un exemple qui revient très souvent. A priori, on n'est pas censé trouver de tomates en hiver, et pour autant, on en trouve quand même régulièrement. Sauf que les tomates d'hiver, elles ont moins de saveur, elles sont moins colorées. Et c'est quand même des signes qui ne trompent pas. Donc, par exemple, pour cultiver des tomates en hiver, il faut une installation particulière. Et surtout, après, il va falloir les distribuer. Donc, il va falloir les transporter. Ça, c'est des mécanismes, des processus qui nécessitent beaucoup d'énergie, donc de carburant, etc. Donc ça a un impact évidemment sur la pollution. Donc l'idéal, le top du top même, c'est d'essayer de privilégier des végétaux qui sont cultivés en France et dans l'idéal, proche de chez vous. Des fois, quand on fait nos courses, on voit un petit peu production locale. Par exemple, il y a des aliments qui sont spécifiques à certaines régions. Admettons, par exemple, les noix du Périgord, si vous êtes dans le Périgord, mangez des noix. Ça, c'est l'idéal. Après, il y a aussi, sur les impacts sur l'environnement, les végétaux, quand ils sont cultivés hors saison, bien souvent, pour une raison de praticité pendant les transports, etc., ils sont souvent très emballés. Alors que les fruits et légumes de saison que vous pouvez trouver plus facilement, a priori, ils sont pas emballés, ou moins en tout cas. Il faut savoir aussi que les cultures hors saison nécessitent des boosters, donc des ajouts de produits artificiels plus ou moins nocifs pour la santé et pour l'environnement. Voilà, donc ça, c'est des paramètres qui sont vraiment à prendre en compte parce que ça a un impact sur notre santé. Donc, aussi bien, la pollution dans l'air a un impact sur l'organisme humain. Le plastique, ça a un impact sur la planète, évidemment, mais aussi sur l'organisme humain et puis les autres organismes. Je parle spécifiquement de l'organisme humain, mais évidemment, on n'en est plus à cette échelle-là. On est carrément à l'échelle de la vie sur Terre. Et puis, les ajouts donc de produits artificiels, selon les produits, ça a un impact sur notre organisme. Un autre impact que sur l'environnement, c'est sur la qualité des produits. Les végétaux qui sont transportés, quand ils sont cultivés hors saison, les végétaux, bien souvent, ils sont cueillis avant la maturité et ils continuent de mûrir en fait après la cueillette. Et bien souvent, c'est un processus qui se met en place pendant les transports. Donc les transports plus ou moins longs. Donc ce qui fait que, en fait, pour ralentir ce processus de maturation et éviter que les fruits et légumes arrivent à un stade de maturation trop avancé après les transports, les végétaux, donc ils sont enduits de traitements chimiques. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, par exemple, les oranges ou les citrons, quand il y a dans des recettes des préparations où on a besoin des zestes ou des choses comme ça, en général, dans la recette, il y a marqué, mettons des citrons, il y a marqué citron non traité après récolte. Eh bien, c'est ça, le traité après récolte. C'est traité pour éviter une maturation trop rapide qui ferait que ces végétaux arriveraient à un stade trop avancé de maturation au moment de la vente. Et du coup, ils ne pourraient pas être conservés plusieurs jours avant d'être vendus et ça coûterait beaucoup de... Enfin, ça causerait beaucoup de pertes aux vendeurs. Donc, et puis bien souvent, alors je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais ces végétaux-là, quand il n'y a pas marqué « non traité après récolte », eh ben, bizarrement, ils mettent très, 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 très longtemps à se dégrader. Alors, imaginez un petit peu ce que ça fait dans votre corps. Voilà, ça a forcément un impact. C'est-à-dire que c'est pas le processus naturel. Donc, le fait de ralentir tout ça à l'extérieur, ça ralentit aussi à l'intérieur. Voilà, donc c'est un élément supplémentaire. Et après, il y a évidemment un impact sur le coût des produits. Souvent, les fruits et légumes de saison... Les produits de saison dans leur globalité sont moins chers. Pour tout ça, c'est-à-dire que quand ils sont hors saison, ça nécessite une installation particulière, ça nécessite des transports, ça nécessite des intermédiaires, etc. Et tout ça, c'est des étapes qui ont un coût. Donc si vous mangez des produits de saison, il y a moins de transports, il y a moins d'installations, parce qu'en fait, c'est plus naturel comme procédé. Il y a moins d'emballage, enfin voilà. Et donc, a priori, c'est moins cher. Alors, je vous avoue, je vous accorde que certains produits sont chers toute l'année, même quand c'est en saison. Je pense aux cerises, par exemple. En fonction des années, des fois, les cerises, ça coûte une fortune. Même quand c'est en saison, sachant que la saison est quand même relativement courte. Donc, c'est pas forcément valable pour tout, mais parmi la globalité des produits, quand ils sont achetés en saison, ils sont quand même moins chers. Et un autre impact qui a toute son importance, c'est un impact sur l'économie locale. C'est-à-dire que si vous achetez plutôt des produits de saison, vous allez plutôt privilégier les circuits courts et encourager les agriculteurs locaux, ce qui est une bonne chose parce que les agriculteurs n'ont pas un mode de vie facile et ils méritent d'être encouragés parce que c'est des travaux qui nécessitent des efforts qui sont vraiment poussés à l'extrême. Ce sont des modes de vie très compliqués et la filière agricole actuellement souffre beaucoup. Alors ça, c'est le cas depuis longtemps, mais c'est bien de les encourager. Donc sur la saisonnalité des produits, donc ça c'est le troisième point. J'ai parlé un petit peu des fruits et légumes, donc les fruits et légumes de printemps par exemple. Alors pour vous donner une petite liste vite fait. Là, il y a les artichauts, les asperges qui reviennent, les betteraves. Les betteraves, c'est un petit peu... il y a quand même une saison assez large. Les carottes, c'est pareil. Le chou-fleur, il y en avait déjà en hiver. Tout ce qui est chou, il y en avait déjà en hiver. Mais là, ça continue un petit peu. Et là, on commence un petit peu à se diriger vers des fruits et légumes qui sont un peu plus présents en été, comme l'aubergine, par exemple, la courgette, les fèves, les petits pois, les poivrons, les radis, etc., les tomates. On va pas tarder à arriver à la saison des tomates. Tenez bon, tenez le coup, vous allez pouvoir manger des tomates bientôt. En fait, tout ça, c'est des légumes qui ont plus de succès en termes de saveur, souvent. C'est vrai qu'en hiver, les fruits et légumes d'hiver, on a fait le tour au bout d'un moment. Moi, je vous avoue que là, je suis hyper contente que les fruits et légumes de printemps arrivent parce que les choux, les poireaux et les courges, autant je suis trop contente de les voir arriver, autant là, je suis bien contente de les voir disparaître. Voilà. Et les fruits de printemps, alors on commence à se diriger un petit peu vers les abricots. Alors, il y a des bananes, mais ça, il y en a un petit peu toute l'année. Et pour le coup, même si c'est made in France, c'est pas forcément hyper local pour les personnes qui vivent en métropole. Il y a le cassis, donc il y a les cerises qui vont pas tarder, il y a quelques fraises et fraises des bois, framboises, tout ça qui vont pas trop tarder non plus. Il y a la rhubarbe aussi qui va arriver, et la rhubarbe, alors je l'ai découverte il y a pas si longtemps, j'en avais jamais trop mangé et c'est vraiment un fruit que j'aime beaucoup. Voilà, comme ça vous savez tout. Donc voilà, il y a les fruits et légumes, ça on en a parlé et puis il y a quand même pas mal de personnes qui savent qu'il y a une saisonnalité pour les fruits et légumes et qui essayent de la respecter. Mais il y a aussi deux autres aliments qui ont une saisonnalité. Il y a les poissons. En fait, alors il y a certains poissons qui peuvent être consommés toute l'année. La lotte, par exemple, la dorade, l'aigle fin, la raie, le merlu, ça c'est des poissons qui sont dispo toute l'année. Mais il y en a d'autres qui ont une saisonnalité qui est surtout liée à leur période de reproduction. Donc respecter cette saisonnalité, ça permet de préserver des espèces de l'extinction, surtout. Au printemps, là, on voit arriver par exemple les coquilles Saint-Jacques, l'aigle fin, le hareng, le homard, les lieux jaunes et noirs, le maquereau, la sardine. Voilà, ça c'est des poissons de saison. Et l'autre aliment qui a une saisonnalité, c'est les fromages. Parce qu'en fait, tout ça c'est lié, hein. C'est-à-dire que les fromages, ils sont créés à base de lait d'animaux. Ces animaux n'ont pas le même mode de vie en hiver et en été, c'est-à-dire que en hiver, bien souvent, ils sont protégés du froid, donc ils sont plutôt dans des étables, ils se nourrissent de foin, et le lait du coup qui est produit à ce moment-là a moins de saveur que quand ils sont au printemps ou en été dans le pré à manger des végétaux qui sont plus frais et qui ont plus de saveur, qui ont plus d'odeur, et du coup tout ça, ça va avoir un impact sur le lait. Donc voilà, le lait par exemple qui est recueilli, on va dire, au printemps et en été, il a beaucoup plus de saveur et c'est souvent celui-là qui est utilisé pour faire les fromages. Et après, il y a le temps d'affinage qui compte. Ce qui fait que il y a du fromage potentiellement toute l'année, mais il y a certains fromages qui sont plus à privilégier en fonction des saisons. Là, par exemple, au printemps, le bleu d'Auvergne, le brie de Meaux, le camembert, l'emmental, le gorgonzola, la mozzarella, le reblochon, le Saint-Nectaire, voilà, tout ça, c'est des fromages de printemps. Donc, le quatrième et dernier point, quelques petites astuces pour vous aider à consommer mieux, on va dire. Mais là, c'est surtout, quel que soit votre mode d'achat, essayez, si possible, de privilégier le made in France. C'est-à-dire que, essayez de privilégier des aliments qui sont au moins à l'échelle du territoire. Alors, made in France, pour les gens qui habitent en métropole, qui écoutent ce podcast, alors, j'ai été très agréablement surprise il n'y a pas très longtemps de me rendre compte que y avait des gens qui m'écoutaient d'un peu partout dans le monde. Donc, évidemment, c'est à adapter en fonction de votre territoire. Moi, je parle de la France métropolitaine parce que c'est ici que je vis, mais c'est adapté à votre territoire. Donc, vous pouvez essayer de privilégier des productions locales. Donc, si possible, made in France, ou alors, si vous avez encore plus près de chez vous, quelque chose de local. Moi, par exemple, je sais que dans la petite commune où j'habite, il y a une petite ferme, et il n'y a pas très longtemps, le magasin où j'achète les fruits et légumes présentait des légumes de cette commune-là. C'est super. Je passe devant la ferme régulièrement. J'étais hyper contente de trouver des courges à ce moment-là, de trouver de la citrouille à 300 mètres de chez moi. Donc ça, c'est hyper chouette. Et puis ça encourage les agriculteurs qui sont dans les parages et puis qui travaillent dur à côté de chez nous. J'aime bien l'idée d'encourager les personnes qui sont à quelques centaines de mètres de chez moi pour faire leur boulot. Il y a un peu un lien, je trouve, un peu plus fort que se fournir des aliments qui viennent de l'autre bout du monde, même si ces personnes-là ont aussi besoin d'être encouragées, mais à l'échelle locale, c'est plus conscient d'un point de vue écologique, et puis c'est mieux pour votre santé, quoi. Donc il y a cette possibilité-là, et sinon, ici, il y a la possibilité de se tourner vers des AMAP. C'est des associations de maintien de l'agriculture paysanne. C'est un peu ce principe-là, c'est essayer d'encourager les personnes qui qui travaillent dans l'agriculture proche de chez nous. Il y en a plein qui existent, n'hésitez pas à les fouiller sur internet. Bien souvent, ce sont des professionnels qui proposent des aliments en panier, pas ou en cageot. Enfin, c'est pas du détail, c'est plutôt un panier de légumes par exemple pour j'en sais rien, pas dire n'importe quoi, mais entre 10 et 15 euros, souvent, ils font des paniers de légumes, des choses comme ça, ou des paniers de fruits, ou des colis de viande, ou des choses comme ça. Et ça peut être pas mal de se diriger vers ça. Sinon, il y a la possibilité de se fournir directement chez le producteur. Alors ça dépend un petit peu des secteurs dans lesquels vous vivez. Évidemment, si vous vivez en plein centre-ville d'une grande métropole, vous aurez moins de chances d'avoir des producteurs proches de chez vous que si vous vivez un petit peu en périphérie, voire en milieu rural. Mais essayez de vous renseigner un petit peu sur ça. Des fois, on est un peu surpris. Là, en l'occurrence, moi, je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps qu'il y avait un producteur qui faisait faire des cueillettes libres. C'est-à-dire que les gens vont dans son potager et ils vont cueillir eux-mêmes les fruits et légumes et puis ils les achètent au poids, etc. Et j'ai été surprise de savoir qu'il y avait ça autour de chez moi. Donc, ça vaut le coup de se renseigner. Sinon, évidemment, il y a les marchés. Sur les marchés, il y a un peu de tout. Il y a évidemment des distributeurs, on va dire, et puis il y a des producteurs. Donc, essayez si c'est possible. Moi, c'est ce que j'essaye de faire, de privilégier plutôt les producteurs. Et alors, comment faire la différence ? C'est par rapport au nombre de références. C'est-à-dire que s'il y a un stand où il y a plein de fruits et légumes ou plein de c'est surtout pour les fruits et légumes en particulier là cette question-là, admettons, si vous trouvez un stand avec des fruits exotiques, par exemple, y a peu de chances que ça soit un producteur local. Ou si vous trouvez un stand avec un peu tous les fruits et légumes qui existent, il y a peu de chances que ça soit un producteur local. Moi, je fais la différence comme ça. Les productions locales, non seulement les fruits et légumes ne sont pas forcément en 50 références, il y a quelques références, c'est des produits qui sont vraiment de saison. Et surtout, ce sont des fruits et légumes qui ne sont pas calibrés. Donc, ils sont, entre guillemets, on les appelle un peu les fruits et légumes moches. Parce que, c'est pas une carotte parfaite ou un kiwi parfait. Avec la forme qu'on attend d'eux. Et ça, ce sont des bons signes qui peuvent vous permettre de différencier, en fait, un vendeur de fruits et légumes d'un producteur. Et voilà. Et sinon, une petite astuce aussi, qui peut être intéressante. Alors le problème avec les personnes que je reçois en consultation, c'est vraiment un paramètre que j'ai noté. Bon, évidemment, j'essaye de les diriger au maximum vers des consommations de produits de saison, mais là on arrive à la fin de l'hiver et il y a plein de gens qui me disent non mais c'est bon, les choux j'en peux plus, les courges j'en ai trop marre, les poireaux je peux plus les voir en pointure. Bon, je comprends, et du coup c'est un petit truc que je leur donne, c'est les surgelés. C'est que les fruits et légumes surgelés sont cueillis à maturité, donc ils ont tout leur intérêt nutritionnel, et le froid conserve bien ses propriétés là nutritionnelles. Donc ça peut être vraiment une bonne alternative pour quand on en a marre des fruits et légumes de saison, qu'on a envie de se faire une ratatouille là. C'est vraiment le truc du moment là, se faire une ratatouille là maintenant, alors que les courgettes sont pas encore là, les tomates pas trop, les aubergines pas trop. Pourquoi pas acheter des aubergines, des courgettes et des tomates surgelées et faire votre ratatouille. Comme quoi c'est possible. La texture est différente. Voilà, c'est pas exactement la même chose que des légumes frais, ça c'est sûr. C'est surtout au niveau de la composition en eau. En fait, avec le froid, cette eau est transformée en glace, et ensuite, dès que ça décongèle, l'eau part, en fait. Ce qui fait que c'est des fruits et légumes qui sont beaucoup plus riches en eau. Donc c'est bien pour des cuissons. Pas pour manger des crudités, hein. Votre tomate mozza, ça sera pas pour encore. Mais ça peut vraiment dépanner pour plein de choses. Moi, c'est une alternative que j'utilise beaucoup, hein. Les surgelés. Franchement, les légumes d'hiver, j'en ai trop marre, donc je mise beaucoup sur les surgelés. Même les fruits. Alors, Évidemment, c'est pas des fruits que vous allez pouvoir manger crus, mais des fruits pour faire des compotes ou des papillotes ou des préparations à base de fruits. Enfin, il y a plein de possibilités. Ou même des smoothies ou des choses comme ça. N'hésitez pas à prendre des fruits surgelés. Donc voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Le challenge du coup du mois d'avril, ça sera de manger de saison. Eh oui. Donc le cadeau de l'épisode, ça sera un calendrier de printemps, en fait des fruits, légumes, poissons et fromages de printemps. Comme ça, vous saurez quel choix vous avez. Et le challenge donc du mois d'avril, c'est d'essayer tous les jours de manger des produits de saison. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu, qui vous a potentiellement appris des choses, qui vous a intéressé. Et puis on se retrouve sur Instagram pour faire le challenge en forme avec Léa. Voilà, allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, je vous embrasse.
Merci beaucoup d'avoir écouté Fini ton assiette. Si vous vous posez des questions sur l'alimentation, vous pouvez me les envoyer sur finitonassiette.podcast@gmail.com. Si vous voulez échanger sur l'épisode, vous pouvez me trouver sur ma page Instagram leavillard.diète. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le partager pour m'aider à le faire connaître en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts. En attendant, je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous.